Radio Kapi. Oh, Kapi. Le journal Belinda Bosuma.
À la une, l'élection des gouverneurs hier, 20 provinces de la RDC connaissent désormais les noms de leurs dirigeants ainsi que les noms des nouveaux sénateurs. Le Kwango, par exemple, sera dirigé par Willy Bituisila et secondé par Saki Rémy, tous deux indépendants. Il y a aussi 4 sénateurs élus de Kwango. Le bourgmestre de Mangina au Nord Kivu salue l'intervention de l'armée lors de l'attaque du quartier Linzo par les EDF. C'est le résultat de la collaboration entre la population et les FARDC, a dit Rocky Kakule, vous l'entendrez. Et puis, de nombreuses naissances sont enregistrées dans les camps des déplacés et d'autres structures non loin des camps au Nord Kivu, mais ces nouveaux-nés sont rarement enregistrés à l'état civil, constat du groupe Martin Luther King qui intervient régulièrement dans les camps des déplacés, le responsable de cette association et l'invité de ce journal. À tous et à toutes, bonjour. Un indépendant élu gouverneur du Kwango, Willy Bituisila, c'est son nom, c'est à l'issue de l'élection des gouverneurs, vice-gouverneurs et des sénateurs organisée hier par la CENI à travers le pays. Il sera secondé par Saki Rémy, candidat indépendant lui aussi. 4 sénateurs sont élus, Justin Kapemba, Lueto Kididi, Ikamba Simon et Willy Bituisila. Le nouveau gouverneur dit ne pas être surpris par le choix porté sur lui. Irène Boma.
La province du Kwango sera dirigée pendant les 5 prochaines années par un ticket indépendant. Il s'agit de Willy Bituisila et de Saki Rémy, respectivement élus gouverneurs et vice-gouverneurs. À l'issue de ces élections qui ont pris au moins 3 heures du temps à Kenge, Willy Bituisila a été proclamé élu avec 13 voix sur un total de 24 votants. La candidate de l'UDPS, Colette Lukamata, vient en deuxième position avec 8 voix. 3 voix pour les candidats Modeste Moulassa et Pacho Pamba n'a obtenu aucune voix. Devant la presse pour la toute première fois en tant que gouverneur, Willy Bituisila, qui a aussi été élu sénateur, promet de poursuivre la construction de la province du Kwango.
En fait, le nouveau quinquennat va s'inscrire dans une logique de l'émergence de la province du Kwango. Depuis que notre province existe, les bases institutionnelles ont été mises en place. Eh bien, maintenant, c'est le temps de passer au développement.
Précisons que Willy Bituisila vient aussi en tête de la liste pour l'élection des sénateurs au Kwango. Il a obtenu 5 voix, suivi de Justin Kapemba, de Lueto Kididi et de Ikamba Simon, avec 3 voix chacun. Irène Mboma, Bandundouville, Radio Okapi.
Ici à Kinshasa, le nouveau gouverneur s'appelle Daniel Bumba Lubaki. Il a obtenu la quasi-totalité des voix lors des élections organisées hier. Il succède ainsi à Gentini Ngobila. Et au Congo central, le nouveau gouverneur s'appelle Grace Bilolo. Il remporte l'élection des gouverneurs avec 23 voix sur les 40 votants. Son concurrent, Guy Bandundungidi, candidat à sa propre succession, a obtenu 16 voix. Le Congo central aura comme vice-gouverneur Prosper Ntela, député provincial élu de Mbanzangungu. Dans le Grand Équateur, les élections sénatoriales et des gouverneurs de provinces dans les 3 provinces, à savoir la Mongala, le Sud-Ubangi et la Chuapa, ont aussi connu chacune à 4 sénateurs avec un gouverneur et vice-gouverneur de province. Mais ces résultats encore provisoires doivent être publiés par la CENI. Et au-delà de sa joie, la population attend voir les nouveaux élus répondre aux exigences de développement et de reconstruction de leurs entités. Le compte-rendu de Paul Richard Malengela.
À l'issue des élections que la CENI a organisées ce lundi, on connaît les 3 nouveaux gouverneurs provisoirement élus dans le Grand Équateur. D'abord Jean-Colin Makaka dans la Mongala avec 12 voix sur 20 votants. Cet ancien député provincial de l'UDPS s'est présenté comme indépendant contre 4 candidats. Il succède ainsi pour un mandat de 5 ans à César Limbaya. Et pour les sénatoriales, les 4 premiers sur la liste de 26 sont Jean-Pierre Liao, Sakombi Molindo, Élisée Bokumwana et Michel Lingepo. À la pas les résultats provisoires donnent le vainqueur au gouvernorat Armand Yambé du parti AREP. Il a obtenu la majorité des 18 voix après le désistement des 4 autres concurrents. Quant au sénatorial, Guy Luandomboyo, Moïse Ekumbo, Pancras Bongonkoi ont obtenu chacun 4 voix, suivi de Isengue 3 voix. Ce sont là les 4 qui sont affichés sénateurs. Enfin, dans le Sud-Ubangi, le pasteur Michel Mobonga Lobo a remporté le gouvernorat avec 20 voix sur 28 votants. Ce candidat indépendant s'est opposé à 5 candidats, dont le gouverneur sortant Claude Mabenze. En revanche, les 4 candidats arrivés en tête sur les 28 concurrents sont Alexis Mondongue, Jean-Lucien Boussa, François Bemba et Nadine Boboy. Notons que Koffi Olomide, candidat sénateur de l'AFDCA, s'est désisté la veille. Bondaka, Porsche Malingue, la Radio Okapi.
Au Maniema, c'est Moussa Kabwankubi Moïse qui est élu avec la majorité absolue. Il promet à la population le désenclavement de la province, la relance des produits agricoles et la restauration de l'autorité de l'État. Le nouveau gouverneur du Maniema s'exprime au micro de Florence Kizalunga.
Après les votes des députés provinciaux, mes premières impressions sont celles de joie pour avoir été élu par la majorité des députés. Donc, j'ai obtenu 100% des voix. La population du Maniema peut attendre beaucoup de choses de nous, de notre équipe, parce que nous avons fait un diagnostic que nous avons présenté devant les députés provinciaux. Et parmi les priorités que nous avons dégagées, il y a les problèmes d'enclavement de notre province. Donc, la priorité des priorités, c'est le désenclavement de la province du Maniema. Ce désenclavement passe par la réhabilitation et l'entretien des routes, aussi bien d'intérêt national, provincial, que les routes de desserte agricole. Dans le cadre de la gestion accessible et résultats, dans les 100 jours, nous avons promis de réhabiliter 20 km de route, de relancer la production agricole. Nous allons faire du Maniema les greniers agricoles de notre pays. Par cela, nous allons relancer la production du riz et du maïs. Nous allons restaurer surtout l'autorité de l'État.
Du côté du Kasaï oriental, c'est le président fédéral de l'UDPS Mbujimayi, Jean-Paul Mbwebwe, qui va désormais conduire cette province. Esther Ndalafina revient sur le déroulement du scrutin d'hier.
C'est dans cette ambiance de défense de voix obtenue par les candidats gouverneurs que la CENI a annoncé les résultats provisoires de l'élection du gouverneur de la province du Kasaï oriental. Jean-Paul Mbwebwe, alors président fédéral de l'UDPS Mbujimayi, est élu provisoirement au poste de gouverneur de province du Kasaï-Oriental. Résumé, le nouveau gouverneur remercie la population, ses collègues députés provinciaux et tous les acteurs politiques qui l'ont soutenu. Il promet de travailler en collaboration avec toute la population.
Je suis un serviteur du peuple et je continue à faire comme cela. Je vais travailler en collaboration avec tous les collègues députés provinciaux. Je travaille avec toute la population.
Les députés provinciaux saluent le climat de confiance et de sérénité qui ont caractérisé cette élection. Maître Hilaire Tindai, élu de Mbujimayi, invite toutes les forces vives à travailler pour l'intérêt de la province.
On n'a pas droit à l'erreur. Il ne faut pas qu'en 2028 nous puissions répondre devant le tribunal de l'histoire. C'est le moment, nous pouvons dire c'est maintenant ou jamais, que tous nous puissions travailler pour l'intérêt de cette province qui est notre dénominateur commun.
Signalons que quelques jeunes et femmes de l'UDPS ont circulé sur la ville pour manifester leur joie. Esther Ndalafina Mbujimayi, Radio Kapi.
Au Kasaï central, c'est Joseph Moïse Kambulu qui est élu gouverneur avec 19 voix. Candidat indépendant à ces élections, il a battu John Kabea, candidat à sa propre succession. Ce dernier obtient 15 voix sur les 34 votants. Sur le même ticket, comme vice-gouverneur, il y a Job Kouindama qui salue ce vote et souligne qu'ils vont travailler pour le bien-être de la population. On écoute le vice-gouverneur du Kasaï central dans ses propos recueillis par François Kadima.
C'est le Kasaï central qui gagne, c'est le chef de l'État qui gagne, parce que au sein de l'Assemblée provinciale du Kasaï central, il n'y a aucun député de l'opposition. C'est que c'est pas une victoire pour un camp contre un autre. La victoire d'aujourd'hui qui nous donne pouvoir à la tête de la province, c'est une victoire pour la province du Kasaï central. Je voudrais par ici demander à ceux qui n'ont pas voté pour moi de les promettre que nous allons cheminer et travailler main dans la main avec mon gouverneur Joseph Moïse Kambulu qui est aujourd'hui élu gouverneur de province sur la liste où je suis vice-gouverneur et que nous allons faire en sorte que les fils et filles du Kasaï central et chacun se sentent natifs de cette province parce que nous allons lutter pour le bien-être de tous.
Notez que pour les sénatoriales au Kasaï central, Sylvain Mukengeshai a obtenu 6 voix, Jean Tshisekedi 5 voix, Jean Kabea Mutuabo 5 voix et Cédric Nguindou 4 voix. Dans la province de la Tshopo, l'élection du gouverneur de province ainsi que des sénateurs s'est déroulée sans incident. Il ne reste plus qu'à la CENI de proclamer les résultats enregistrés au terme de ces scrutins. Si au gouvernorat de province, la situation est quand même claire, au niveau du Sénat, il y a un suspense, tel que nous dit Jacques Moukonkolé.
Tous les 29 députés provinciaux ont répondu à l'appel. Au terme du scrutin concernant le gouverneur de province, deux candidats se sont démarqués des 18 autres. Ils ont obtenu respectivement 16 et 12 voix. Du côté du Sénat, ceux qui espèrent gagner ont obtenu respectivement 7, 5 et 4 voix sur les 63 candidats déclarés. Trois autres postulants ont obtenu chacun 3 voix. Un des candidats sénateurs, Jean Bamanissa Saïdi, déclare que les sénateurs et les députés provinciaux vont désormais se concerter pour mettre en place les termes de collaboration.
Cela nous demande de revoir les textes et de revoir comment est-ce que les villes, les communes, les chefferies, secteurs doivent fonctionner. J'ai cette expérience dans la territoriale en tant que gouverneur. J'ai travaillé avec les territoires, les ETD. Il y a des lacunes, des grosses lacunes.
Pour le politologue Casimir Ngombi de l'Université de Kisangani, les résultats de cette élection sénatoriale sont mitigés.
Je ne le vois pas vraiment s'engager pour représenter valablement le Sénat au niveau de la province de la Tshopo. Il y en a qui ne seront pas véritablement être connectés pendant toute la mandature. Je ne suis pas un prophète de malheur, mais je le crois moi. Beaucoup d'efforts pour que nos amis nous convainquent réellement.
Les noms des heureux élus seront publiés par la CENI dans les heures qui suivent. Jacques Moukonkolé, Kisangani, Radio Okapi.
Et pour clore ce chapitre, vous le savez, 20 provinces sur les 26 de la RDC connaissent désormais leurs dirigeants et leurs représentants au niveau du Sénat. Seules les provinces de l'Équateur, du Kwilu, de Maïndombe, de l'Ituri et du Nord Kivu n'ont pas eu d'élection et seront obligées de patienter encore quelques semaines pour avoir leurs représentants au Sénat, mais aussi leur gouverneur des provinces, Michel Kifindangoy.
Conformément aux articles 159 et 171 de la loi électorale, tous les candidats ayant obtenu la majorité absolue des votes dans les 21 provinces sont déclarés élus gouverneurs des provinces. Il s'agit de Moïse Moussa, élu provisoirement gouverneur de Maniema, Banza Moulumé de Olomami, Jean Bakomito de Owele, Jean-Paul Mbwembwe de Kasaï Oriental, Fifi Masu Kasaïni de Lualaba, Christian Kitungwa du Tanganyika, Jacques Kiaboula du Okatanga, Crispin Mukendi du Kasaï, Kalombo Moussoko de la Lomami, Paulin Lendongolia de la Tshopo, Grace Bilolo du Congo central, Willy Bituisila du Kwango. D'après la CENI, un second tour sera organisé dans les 72 heures au sud Kivu, où aucun candidat gouverneur n'a obtenu la majorité absolue de voix. Quant à l'élection des sénateurs, Paul Onana, Afani Idrissa, Justin Kalumba et Faustin Luanga sont élus sénateurs au Maniema. Vicky Katumwa, Christine Mwando, Masudi Kilele et Patricia Mpungwe en sont élus au Tanganyika. Dans le Haut-Katanga, Salomon Kalonda, Samalou Konde, Jacques Kiaboula et Jean-Félix Mopande sont élus sénateurs.
Direction le Nord Kivu, le bourgmestre de la commune rurale de Mangina salue l'intervention de l'armée lors de l'attaque du quartier Linzo par les EDF. Fruit de la collaboration entre la population et les FARDC, l'intervention de l'armée a permis de limiter les dégâts, selon Rocky Kakule, bourgmestre de la commune de Mangina. Il a dit au micro de Marc Marofimbo.
L'armée était professionnelle. On pouvait que la position installée quelque part ici à Linzo a vite été entrée en danse et lorsque cette position a réagi à l'air tueur des coups de balle, voilà, l'ennemi était à débandade. Même les jeunes qui étaient avec les militaires sont en train de témoigner que ni t'était la présence de ces militaires, vraiment les dégâts allaient être énormes. Mais les dégâts ont été limités. Vous voyez, il y a 3 corps des hommes. Tous sont morts parce que chacun s'est débrouillé. Quand il y a des tirs de coups de balle, chacun court à sa destination et malheureusement les balles perdues étaient en train de les atteindre. Donc il n'y a aucune moto incendiée, aucune maison incendiée, aucune boutique pillée et la population sauvée, donc les dégâts étaient limités. Sinon on allait assister à un pire parce que la tendance de l'ennemi c'était d'aller vers le centre Rinzo, tel que vous connaissez Mangina Rinzo, c'est vraiment un centre mouvementé chaque soir. Et l'ennemi a tiré en train de fuir, et les renforts qui étaient venus, vous savez, souvent quand ça tire la nuit, chaque militaire qui est à sa position tire toujours. Alors c'est comme ça que et les renforts venaient, et c'est pourquoi il y a eu trop de coups de balle, mais voilà les dégâts qui étaient limités, comme je vous dis. Donc toutes les portes étaient fermées par les commandants qui étaient en place.
Actualité internationale.
Le nombre des cas de choléra à Mayotte, département d'outre-mer de l'océan Indien, a doublé, passant de 13 à 26 en deux jours, ont rapporté la préfecture et l'agence régionale de santé. Et selon l'ONU, 1 milliard de personnes, dont 43 pays, sont exposées au choléra. Et bien que les moyens de stopper cette pandémie des pauvres soient bien connus, les ressources manquent désespérément pour les mettre en œuvre. Et puis, l'Université Columbia à New York aux États-Unis, d'où est parti un mouvement pro-palestinien sur des campus aux États-Unis, a commencé lundi à suspendre des étudiants qui refusent de quitter un campement installé depuis 10 jours sur le campus. La présidente de la faculté avait lancé un ultimatum aux étudiants.
L'invité.
Il nous vient du Nord Kivu. Un grand nombre de naissances est enregistré dans les camps des déplacés et autres structures locales situées non loin des camps. Cependant, ces nouveaux-nés sont rarement enregistrés à l'état civil par leurs parents. Ce constat est du groupe Martin Luther King qui intervient régulièrement dans les camps des déplacés. Christophe Moutaka, responsable de cette association congolaise pour la non-violence et les droits humains, est l'invité de ce journal. Il dit craindre d'éventuelles conséquences plus tard pour ses enfants une fois la guerre terminée. Il est avec Sifa Maguru.
Christophe Moutaka, bonjour.
Bonjour madame.
Le groupe Martin Luther King vient de faire une note de plaidoyer pour l'enregistrement des enfants dans les camps des déplacés internes au Nord Kivu. Quelle est la situation? Qu'est-ce qui vous préoccupe?
Oui, merci madame. Et donc la situation, ça fait plus de 2 décennies que l'Est de la République démocratique du Congo est déchiré par des conflits avec des déplacements permanents parmi les conséquences. Et donc la problématique de l'enregistrement des enfants au bureau de l'état civil est l'une des grandes question en matière de protection de l'enfant. Nous avons constaté que les enfants qui naissent dans les camps ne sont pas enregistrés à l'état civil. Et une fois ces enfants ne sont pas enregistrés à l'état civil, c'est un grand problème de protection parce que ces enfants risquent de ne pas être des Congolais. Ça veut dire qu'ils risquent de perdre l'identité, ils risquent de devenir des apatrides. Et là, devant cette situation, nous nous sommes dit, nous devons faire un effort pour arriver à mener ces plaidoyers pour que ces enfants qui naissent dans les camps de la ville de Goma et ses environs soient enregistrés à l'état civil, c'est-à-dire être reconnus par l'état congolais comme des citoyens et des citoyennes.
Peut-on avoir une idée sur les chiffres, les nombres d'accouchements en moyenne dans les camps? On sait qu'on a beaucoup, beaucoup de camps. Si on prend même l'axe Boulengo, il y a plusieurs camps là-bas, sans compter l'axe Kanyaruchinya, ceux qui sont venus avant. On peut estimer à combien les naissances?
Les naissances dans le centre de santé aux environs de Mugunga, il y a entre 150 et 200 enfants qui naissent le mois. Et là, ce sont des enfants que les structures médicales déclarent. Mais ce ne sont pas des enfants enregistrés à l'état civil, madame. Ça veut dire que si on peut extrapoler sur les autres camps de la ville de Goma et ses environs, vous allez comprendre que le chiffre est très élevé et tous ces enfants qui naissent ne sont pas enregistrés à l'état civil et donc n'ont pas d'identité.
Qu'est-ce qui justifie cette situation? Qu'est-ce qui manque ou qu'est-ce qui pose problème pour que ces enfants soient enregistrés?
Justement, le problème se pose en termes de manque de registres. Ça veut dire qu'il n'y a pas assez de registres dans la province, d'une manière générale, et d'une manière spécifique dans le camp. Il n'y a pas de registre pour que ces enfants soient enregistrés à l'état civil. Mais parfois, on arrive, on dit, bon, l'enfant est encore dans les délais. On arrive au bureau de l'état civil, on vous dit, il n'y a pas de registre. Vous y passez 2 fois, 3 fois, et à un moment donné, on vous dit, non, vous n'êtes plus dans les délais. Mmh. Alors, vous êtes obligé d'aller vers le tribunal pour enfants, pour des démarches qui vont coûter beaucoup d'argent, alors que vous étiez dans les délais, mais faute de registre, vous ne pourriez pas faire enregistrer votre enfant. Cette apatridie a des conséquences graves. Par exemple, on ne peut pas avoir une attestation de nationalité quand on n'a pas un acte de naissance. On ne peut pas aller à l'étranger avoir un passeport si on n'a pas un acte de naissance. Il y a des pays qui exigent, par exemple les États-Unis, qui exigent que pour qu'un enfant aille dans leur pays, il faut qu'on puisse brandir un acte de naissance. Pour avoir du travail, que ce soit du travail, que ce soit une bourse d'études, il faut brandir un document, un acte de naissance qui prouve réellement que vous êtes de ce pays-là. Ça fait que tous ces enfants qui naissent risquent de connaître des situations difficiles seulement parce qu'ils n'ont pas les actes de naissance.
Dans les contextes locaux du Nord Kivu, ces enfants qui sont en train de naître en dehors de leur milieu d'origine, de leur territoire et village d'origine, est-ce que vous craignez que une fois la guerre terminée, ces familles rentrent, est-ce que ces enfants peuvent avoir des problèmes identitaires là-bas?
Justement, les problèmes d'identité vont se poser parce que il n'y a aucun document qui va prouver que ces enfants sont nés dans le camp à Goma et ses environs. Aux yeux de la loi, ces enfants n'existaient pas. Et donc, le fait de ne pas exister pour ces enfants, c'est un grand problème de protection. Voilà pourquoi nous devons mettre une attention particulière sur cette question pour que des solutions idoines soient trouvées urgentement devant cette situation.
Merci. Merci beaucoup, monsieur Christophe Moutaka.
C'est moi qui vous remercie, madame.
Et par ici prend fin ce journal. Merci de l'avoir suivi.